Bonjour et bienvenue, le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h et nous sommes ensemble avec vos rendez-vous du samedi, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein dans un instant, et puis le débat du week-end, comment refonder notre modèle démocratique, comment répondre à la crise de la représentation que nous traversons, des questions qui sont au cœur de Libres et égaux en voix, le dernier essai de Julia Cagé, elle est professeure d'économie à Sciences Po, elle était au comité de Benoît Hamon lors de la dernière campagne présidentielle et elle préside l'association des lecteurs du journal Le Monde. Elle milite pour un modèle alternatif de financement des médias. Je cite Julia Cagé, la démocratie c'est non seulement une personne, une voix, mais une personne informée, une voix. Alors quelles sont ses propositions pour refonder notre modèle? Partis politiques, médias, je vous le disais, système électoral, on va en débattre avec elle. Rendez-vous avec Julia Cagé dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, évidemment, un discours qui était très attendu, longtemps repoussé et qui a eu lieu hier.
Il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence et qui a conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire ou à considérer que le pire était devenu naturel. Et donc à créer les conditions de dérives politiques, mais aussi de dérives violentes, celles du terrorisme islamiste.
C'était évidemment la voix du président de la République, Emmanuel Macron. Hier, au Mureau, il parlait de son plan d'action contre les séparatismes avec de nombreuses annonces concernant l'école, concernant l'obligation de neutralité étendue aux délégataires du service public. Il a également parlé de la fin du système des imams détachés formés à l'étranger, d'un plan de relance pour l'émancipation de nos quartiers, du motif de dissolution des associations qui devraient être étendues et de l'accentuation de la lutte contre la radicalisation. Beaucoup de sujets, beaucoup de mesures annoncées. Natacha, qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Alors, premier point, et une fois n'est pas coutume, je trouve qu'il faut saluer ce discours parce qu'il n'était pas seulement dans le lyrisme, il n'était pas seulement dans les mots, il y a des actions concrètes et des décisions qui ont traîné pendant des années, qui étaient dans l'air du temps, dont tout le monde savait qu'il faudrait les mettre en place, et enfin, on les met en place. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que pour une fois, on ne se perdait pas dans les bonnes intentions. Je souligne également que Emmanuel Macron a essayé de tenir les deux bouts, c'est-à-dire de ne pas être seulement dans la dénonciation du communautarisme, enfin lui dit du séparatisme, mais qu'il a aussi tenu compte de la responsabilité de l'État. Et la veille de son discours, le journal Le Monde a publié une tribune absolument excellente de Shemseddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, que j'ai trouvé vraiment parfaite dans son analyse, dans sa lucidité, expliquant à la fois comment certains avaient laissé prospérer une version radicale de l'islam, une interprétation des lois coutumières, mais qu'ils n'ont pu le faire que parce qu'il y a eu d'abord ce qu'il appelle une politique de l'excuse et aussi parce qu'il y a eu des défaillances de l'État et un recul de l'État. Alors, c'est là-dessus que je voudrais insister aussi, c'est que là, sur ce volet-là, le fait, l'abandon, en fait, par l'État de ses prérogatives, Emmanuel Macron l'a évoqué, il en a parlé, il y a des promesses sur ce point-là.
Oui.
La question que je me pose en entendant ce discours, c'est les décisions sont bonnes, les intentions sont bonnes, quels sont les moyens réels dans la mesure où la tâche est absolument immense. C'est-à-dire que c'est très bien de dire on va par exemple avoir des professeurs d'arabe qui ne soient pas envoyés par des pays étrangers, formidable. Comment on fait, comment on les forme, où est-ce qu'on les trouve, à quelle échelle temporelle. Après, ouais. Je laisse Gilles dire ce qu'il pense de ce discours et après peut-être aborderons-nous les points plus complexes comme par exemple la question de l'école.
Exactement, justement, j'allais y venir. Gilles, qu'avez-vous retenu des annonces faites par le chef de l'État hier ?
Ouais, vous l'avez évoqué, Ali, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions et avant qu'on revienne au moins sur certaines d'entre elles, peut-être un mot sur le positionnement qui a été celui d'Emmanuel Macron dans ce discours. Après une très longue réflexion, ça fait maintenant des années que ce discours est attendu, après pas mal d'hésitations. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même, dans son discours, évoque cette tentation d'un islam concordataire qu'il a finalement écarté. Mais je trouve qu'il évite la cécité qui peut être celle d'une partie de la gauche et la stigmatisation qui est très souvent celle de l'extrême droite.
Il a réussi à éviter ces deux écueils-là.
Je trouve, il a réussi à imposer ce qui est difficile à imposer, son mot, son vocabulaire, sa grammaire avec ce mot de séparatisme. Il a assumé une clarification de ce mot-là, puisqu'il y a encore quelques jours, on parlait des séparatismes. Là, il a entièrement centré, peut-être à l'excès, mais il a entièrement centré son discours sur le séparatisme islamiste, qui, je crois, est un problème réel, et il a eu raison de le situer à la fois dans un contexte international de radicalisation de l'islam et de division de l'islam, mais aussi des propres responsabilités de la République française. Donc je trouve que le positionnement est bon, qu'il y a beaucoup de propositions, mais que, comme très souvent en politique en général et très souvent avec Emmanuel Macron, la question maintenant va être une question d'exécution.
Question d'exécution, il y a donc un plan qui est prévu, le projet de loi devrait être bouclé d'ici la mi-octobre, il devrait être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre prochain, puis discuté au Parlement en 2021. Parlons de l'école justement, Natacha, ces nouvelles règles pour l'école qu'annonçait Emmanuel Macron, l'instruction scolaire à domicile sera à partir de la prochaine rentrée scolaire, je cite le président, strictement limitée notamment aux impératifs de santé. Elle deviendra donc obligatoire au sein de l'école dès l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est l'une des mesures qui sont de nature à changer les choses ou à lutter efficacement contre les origines de ce séparatisme islamiste ?
Alors, c'est une mesure qui est d'abord majeure dans l'histoire de la République française, puisque jusqu'à présent, c'était l'instruction qui était obligatoire. Désormais, c'est l'école qui devient obligatoire. C'est une décision vraiment extrêmement importante. On comprend bien la volonté d'Emmanuel Macron de limiter un mouvement qu'on observe depuis quelques années, et pas seulement de la part de familles adeptes d'un islam radical, pas seulement du tout, cette volonté de la part de familles de reprendre en main l'éducation de leurs enfants, ce qui risque de détruire cette dimension de creuset national que doit avoir l'école républicaine, parce que tout l'enjeu est là, comment on forme des citoyens, comment on fait en sorte de ne pas avoir uniquement des individus qui n'ont rien à voir entre eux et qui considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec ceux à côté de qui ils vivent. C'est tout cela l'enjeu de l'école. Or là, j'ai été très intéressée par les réactions des uns et des autres. Alors on a évidemment, et sans surprise, tous les tenants, même des écoles hors contrat, qui pourtant elles sont reconnues et auront le droit de perdurer, oui. Des écoles hors contrat, notamment catholiques, qui commencent à s'inquiéter, à se demander s'il n'y a pas une remise en cause de leur possibilité même d'exister. Donc, je passe d'ailleurs sur la question du contrôle. Comment on va faire pour aller récupérer ces enfants qui sont sortis de l'école? Mais ce phénomène touche aussi de plus en plus des familles qui considèrent que l'école ne s'adapte pas à la personnalité originale de leur enfant. Et c'est là qu'on va rencontrer des difficultés. Parce que, en fait, la décision d'Emmanuel Macron va à l'encontre d'un mouvement actuel qui n'est pas seulement celui d'un séparatisme religieux, mais qui est un mouvement d'individualisme total qui fait que beaucoup de parents n'acceptent plus le fait que leurs enfants doivent se plier à une règle normale et qu'il appartient à la puissance publique aussi d'obliger à certaines choses dans ce domaine-là. Oui. Et j'ajoute que j'ai vu des réactions de professeurs, et là aussi c'est très intéressant, de professeurs qui sont profondément attachés à l'école républicaine, mais qui justement pour cela critiquent son état actuel et qui là ont réagi en disant « Mais donc, les parents qui sont scandalisés de l'échec actuel de l'école, de son incapacité à former correctement les enfants, ne pourront plus y échapper et on les oblige à aller dans une école. » J'ai trouvé ça va donner lieu à des débats sans fin. La question de la liberté individuelle qui est au cœur de ce problème-là est extrêmement intéressante et je ne suis pas certaine pour l'instant d'avoir des réponses faciles à ce problème-là.
Alors justement, Gilles, sur la question scolaire, la dimension scolaire qui était donc au cœur du discours du président.
Oui, c'est sans doute la décision, l'annonce la plus spectaculaire. Natacha Ponidi, c'est une décision majeure. Ça l'est sur le plan des principes, puisque elle l'a dit, il y avait une distinction entre l'instruction et l'école. Il faut bien comprendre que ce dont il s'agit, ce n'est pas de rendre l'école obligatoire à 3 ans, puisque c'est déjà le cas, mais c'est de faire en sorte que cette instruction se fasse à l'école et pas dans les familles. Est-ce que c'est un changement? Qu'est-ce que ça touche concrètement? On pourrait dire, ça touche en réalité peu d'enfants, on dit c'est aux alentours de 50 000 enfants sur l'ensemble des enfants qui sont scolarisés, donc ce n'est pas beaucoup, d'autant que parmi ces 50 000 enfants, il y en a au moins la moitié qui continueront à être scolarisés à domicile, parce que c'est pour des raisons médicales que vous avez évoquées, mais même s'il ne s'agit que de 20 000 enfants, c'est quand même tout à fait important. Derrière ça, il y a une série de problèmes. Quand je dis on va passer à l'exécution, c'est ça, l'exécution des décisions. Il y a les problèmes techniques que Natacha Polony vient d'évoquer, c'est-à-dire de fixer la frontière. On dit le médical peut continuer, pour des raisons médicales, on peut continuer à avoir une instruction chez soi, dans ce mouvement qui n'est pas seulement un mouvement d'individualisme, y compris, je mets à part le séparatisme de parents qui considèrent que leur enfant n'est pas adapté à l'école ou que l'école n'est pas adaptée à leur enfant, il y a quand même un sujet. Il va y avoir des questions juridiques de constitutionnalité et il va y avoir enfin, et c'est très important, un problème pratique de contrôle parce que beaucoup de ces enfants iront dans des écoles hors contrat et donc il faut voir comment ce contrôle s'effectuera.
Il y a un autre sujet avant de passer au prochain chapitre, Natacha, en l'occurrence la question de l'obligation de neutralité qui sera étendue aux délégataires du service public et le président mentionnait un exemple, celui du contrôleur de transport public qui ne laisse pas monter une femme dans le bus. Je crois que c'était l'exemple qu'il prenait pour des raisons vestimentaires. En l'occurrence, est-ce que ça, c'est de nature, par exemple, à lutter contre le séparatisme? Pour vous, première question. Et la deuxième, est-ce que c'est aussi une manière de dire que les mères voilées, par exemple, pourront accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires?
De toute façon, Emmanuel Macron a été clair sur ce point, il n'est pas sur la position de Jean-Michel Blanquer. Il n'a pas l'intention pour l'instant d'interdire le port du voile lors des sorties scolaires pour les accompagnantes. Donc là, les choses ont été clarifiées aussi. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est pas que cette neutralité pour la délégation de services publics va lutter contre le séparatisme. Enfin, c'est-à-dire cette expression « lutter contre le séparatisme » est extrêmement floue. C'est juste que ça va rappeler certaines choses, et notamment la loi, en effet. Par exemple, dans le cas cité par le président, la loi, c'est que les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Et que
on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Que nous devons préserver. Et le deuxième point, c'est en effet, ça peut enclencher, je l'espère, une réflexion sur ce que signifie au fond la laïcité, c'est-à-dire le fait que ce ne sont pas des règles juridiques, mais l'idée d'une forme de mise à distance des opinions, des croyances, des individus, et notamment quand ces individus sont censés représenter la puissance publique. C'est cela qu'il faut rappeler, c'est au cœur de notre pacte politique et social, et je pense que si on peut arriver petit à petit à clarifier par certaines règles cette question-là et à rappeler qu'il ne s'agit pas d'être dans un juridisme total, mais uniquement dans une forme de culture de la discrétion, pour reprendre un terme qui avait fait polémique, mais qui, moi, me semble juste, pour tout le monde, discrétion pour tout le monde, et c'est de nature à apaiser les rapports sociaux.
Gilles, sur la question des services publics.
Oui, sur la question des services publics, et peut-être même plus largement, en réalité, il ne s'agit pas d'un discours sur la laïcité, il s'agit d'un discours de combat de la République contre le séparatisme islamiste. C'est ça qu'a voulu faire Emmanuel Macron, et je trouve une des difficultés dans l'interprétation que maintenant, le travail qu'il faut faire sur ce discours, parce qu'en fait, derrière chaque mot ou derrière chaque ligne, il faut essayer de décrypter ce qu'il y a. Il faut essayer de démêler non pas le vrai du faux, mais le neuf du vieux. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions de mesures qui ont déjà été annoncées. Par exemple, l'enseignement des langues et des cultures d'origine, ça fait 10 fois, ça fait des années qu'on en parle. Il faut essayer de débusquer ce qui est flou derrière la profusion de propositions. Je donne un seul exemple. Quand Emmanuel Macron dit, pour régler les questions de financement, on va le faire grâce à la structuration du pèlerinage pèlerinage de la Mecque. Qu'est-ce qu'on met derrière exactement? Je ne sais pas. Et puis enfin, il faut repérer des trous. Il y a, c'était peut-être pas l'objet du discours, mais Emmanuel Macron termine par une partie où il dit il faut aimer la République. L'autre face de ce discours pour lutter contre le séparatisme, c'est de faire en sorte que le modèle républicain tienne ses promesses. En gros, c'est le plan Borloo. Eh bien, ce volet-là, peut-être que c'était pas le jour, mais il est toujours manquant.
D'un côté, Natacha, d'un mot, qu'est-ce qu'il manquait à ce discours-là pour vous?
Mais je suis sur la même position que Gilles. C'est-à-dire, la question est de savoir comment on fait pour que la promesse républicaine soit tenue, c'est-à-dire que l'État soit présent dans des quartiers où il ne l'est plus.
Oui.
Alors, il ne s'agit pas de dire que seuls les quartiers populaires, les banlieues ont été abandonnés, parce que l'État s'est retiré de tous les territoires ruraux également. Mais ce retrait de l'État, c'est l'abandon de la prérogative de la puissance publique qui permet d'égaliser les conditions, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde les mêmes chances. De fait, en France, il n'y a plus d'égalité des chances.
Et on aura l'occasion, évidemment, de
vivre correctement sur un territoire. Donc, c'est absolument essentiel. Ça nécessite une réflexion plus globale sur l'économie et sur l'organisation, sur l'aménagement du territoire. Pour l'instant, en effet, on attend toujours.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Pour nous, on fait des estimations à partir du nombre d'hospitalisations et on serait plutôt autour de 25 000 cas par jour et non les 10-15 000 cas qui sont déclarés dans la base CIDEP. Si on reste sur la même trajectoire, on double à peu près tous les 15 jours. Ça voudrait dire donc qu'on passerait de 25 000 à 50 000, ce qui est considérable. C'est une situation qui demande d'agir rapidement.
Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique qui s'exprimait jeudi aux côtés du ministre de la Santé. Pas de nouvelles mesures fortes, en revanche une sévère mise en garde. Gilles, comment interpréter ce discours politique qui a changé par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques mois? Faire comprendre aux Français que la situation est grave, qu'il y a urgence à adopter des mesures de protection et d'un autre côté, ne pas annoncer de nouvelles mesures restrictives.
C'est vrai qu'on est dans un moment étrange où on voit que le virus circule de plus en plus rapidement et surtout qu'il circule de plus en plus dangereusement, au sens où on est passé d'une contamination plutôt des jeunes vers les plus âgés, où il y a un certain nombre de villes dans lesquelles on est 5-6 fois au-dessus du seuil d'alerte et où on voit se profiler l'engorgement des hôpitaux, et dans le même temps il y a peu de décisions. Pourquoi ? Je n'en sais rien. L'analyse que je crois qu'on peut faire, c'est que la maladresse sur la forme qu'il y a eu à l'occasion des décisions à Marseille,
oui,
a conduit à une mollesse sur le fond aujourd'hui, un peu par précaution.
Même si les Parisiens vivent en sursis.
Et que la crainte du gouvernement n'est pas que... Il y a une majorité qui conteste les décisions. On voit d'ailleurs dans les enquêtes qu'une majorité est prête à des décisions plus lourdes, mais qu'il y ait une minorité qui les refuse. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait nouveau. On l'avait vu se dessiner, s'esquisser avec les anti-masques. On a vu des premières réactions, soit juridiques, soit concrètes, à Marseille. Je pense que la crainte, elle est là, et que cette crainte est d'autant plus forte qu'on est à un moment dans lequel la confiance dans le gouvernement pour régler la crise sanitaire est la plus faible depuis le mois de mars, depuis le confinement. Et lorsque on interroge les Français sur est-ce que dans le passé, le gouvernement a pris les bonnes décisions, il y a 24% des Français qui disent oui. Et pire encore,
un quart seulement.
Et pire encore, quand on leur demande dans le futur, est-ce que le gouvernement sait où il va, il y en a 15% qui disent oui. Et donc, il y a un sentiment, je pense, de fragilité du gouvernement qui explique cette temporisation.
Natacha Polony.
Oui, je pense que en effet, la crainte de minorité qui refuserait est importante, même si il faut bien comprendre que ceux qui aujourd'hui appellent au secours, disent qu'ils vont crever de ces décisions, les restaurateurs, les bistrotiers, et puis derrière tous ceux qu'on n'entend pas, des chauffeurs de taxi, des gens comme ça, tout cela, en fait, se conforme à la loi, à la fin. Même s'ils se font entendre. Et qu'il y a une forme d'acceptation de la règle qui est quand même ultra majoritaire. Le seul problème, c'est en effet des petites minorités qui pourraient éventuellement ne pas accepter la règle et le fait que ceux qui l'acceptent vont souffrir tant que la colère, le ressentiment peut, travailler une part de la population. Ce qui, en fait me semble un petit peu gênant aussi, oui, c'est le côté un peu ballon d'essai qu'on a l'impression de vivre, c'est-à-dire le fait que des rumeurs se répandent, on va vers un reconfinement, on va vers des interdictions, comme s'il y avait, et de la part même de certains conseillers proches, de certains conseillers ministériels, de voilà, qui agite des chiffons rouges comme si on voulait tester justement l'état de l'opinion. Je pense qu'il n'y a rien de plus malsain et je pense que la clarté est la seule façon peut-être de permettre d'accepter quelque chose qui pour certains va être extrêmement douloureux, voire parfois dramatique en termes économiques.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Il y a des professeurs qui disent ça déconcentre les garçons. Ben bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre.
Vous avez reconnu évidemment la voix d'Alain Finkielkraut sur LCI il y a quelques jours. Alain Finkielkraut qui est déconcentré par les jeunes filles en crop top. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi autour de cette tenue correcte exigée ou non, cette tenue républicaine, le sondage qui a fait polémique, sondage qui a été produit par l'Institut IFOP. La Fondation Jean Jaurès, c'est donc vous, Gilles, vous avez refusé de vous y associer. Et vous, Natacha, en revanche, vous avez décidé de le publier à Marianne. Je voulais entendre justement les arguments de l'un et de l'autre autour de ce sondage qui effectivement a suscité un nombre de réactions absolument considérable. Gilles, d'abord, pourquoi ne l'avez-vous pas publié? Et puis Natacha nous dira pourquoi elle trouve qu'il était intéressant malgré tout de s'y associer.
Écoutez, compte tenu de la tornade numérique que ça a déclenché, je dois dire que je ne suis pas mécontent qu'on ne s'y soit pas associé. Je ne vais pas faire le malin. Ça a été d'abord une intuition. C'était une décision que je devais prendre dans l'urgence, que l'on essaye d'éviter. Et à la lecture de l'intitulé, de la rédaction des questions, j'ai éprouvé une sorte de malaise et j'ai tout simplement dit « Écoutez, je ne le sens pas et donc on ne le fait pas ». À la réflexion, j'ajoute quand même un mot. Le problème, à mon sens, n'est pas l'objet de cette enquête, c'est-à-dire les tenues correctes, qui est un sujet de société, ni même de faire un sondage sur ces questions-là, parce que c'est des sujets sur lesquels les Français peuvent légitimement avoir un avis, et ce n'est pas non plus le résultat. Il nous arrive malheureusement tous les jours de publier des résultats d'enquête avec lesquels nous sommes en désaccord, et d'ailleurs le contrat de confiance, c'est quand on commande une enquête, on la publie et on la publie intégralement. J'ajoute enfin que ce n'est pas le texte de l'analyse de François Crosse qui est le collaborateur de l'IFOP qui a rédigé ça.
Et qui dirige le pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP.
Je termine par là. C'était le questionnaire, le fait qu'on s'interroge seulement sur les tenues des filles et pas sur les tenues des garçons, la rédaction d'un certain nombre de questions, qu'on ne s'interroge pas sur quelles sont les raisons qui expliquent que les Français sont opposés à ces tenues, ni sur comment on gère cette situation. Bref, je pense qu'on pouvait faire un sondage qui soit plus complet et qui aurait pu être justifié.
Natacha Polony.
Je vais vous dire, je suis totalement d'accord avec les réserves qu'émet Gilles. En effet, la question de la tenue vestimentaire des garçons aurait été intéressante parce qu'on aurait pu constater qu'en effet, il y a aussi des restrictions vestimentaires sur les garçons dans les établissements scolaires. De fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce sondage, c'est justement la question que je me posais. Par exemple, les femmes, sont les plus enclines à vouloir interdire certaines tenues au lycée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ont intériorisé l'idée qu'une femme serait en danger avec certaines tenues? J'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière. Mais c'est pour ça aussi que nous avons publié ce sondage à Marianne. C'est justement parce que ces réponses-là nous intéressaient, outre les limites qu'on peut émettre sur la forme du sondage. Après, rappelons une chose. En effet, il y a une forme de bulle. De bulle Twitter qui s'est formée autour de ça, avec une excitation qui, moi, me semble toujours délirante, et avec des arguments fallacieux de la part de certains qui, en fait, étaient plus gênés par les réponses que par le sondage lui-même. Et je trouve un peu inquiétant qu'on se dise maintenant qu'il y a des questions interdites parce que les réponses nous déplaisent. Je préfère l'analyse. Et encore une fois, après, on peut discuter de la formulation et de l'entourage de ce sondage. Et je trouve ça, en effet, légitime.
D'un mot, d'autant que Marianne, le magazine, a pour logo une femme au sein nu, en l'occurrence, la liberté guidant le peuple. Et que paradoxalement, on s'est dit oui, mais vous êtes sur une position conservatrice. C'est ce qui vous a été reproché dans ce paradoxe-là.
Non, mais ce qui est extraordinaire, mais Gilles. Gilles vient de le dire. Enfin, quand on commente un sondage, on n'est pas en train de dire qu'on est pour, qu'on est d'accord avec le résultat du sondage. Enfin, c'est absurde. On a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, de ce sondage sur la peine de mort. Ceux qui ont fait ce sondage et ceux qui l'ont publié ne sont pas pour le rétablissement de la peine de mort.
C'est
donc, arrêtons avec ce genre de stupidité. Voilà. En revanche, nous, il nous semble qu'il est toujours intéressant de comprendre de quoi on parle et quel est l'état de l'opinion. Moi, je trouve ça important.
C'est dit d'un mot, Gilles, ouais, avant d'accueillir notre invité, Julia Cagé.
Juste d'un mot, parce que je trouve que la situation n'est pas exactement comparable avec celle de la peine de mort. Le problème de la peine sur la peine de mort, il n'y a pas d'interrogation sur la question elle-même. C'est la même question qui est posée depuis 30 ans. Là, c'était le contenu du sondage qui était interrogé. Ça nous est arrivé on va dire à peu près dans les mêmes proportions la première fois qu'on a fait un sondage sur le complotisme. Ben, on a essayé d'en tirer les leçons et de modifier l'enquête l'année d'après. Et maintenant, tout se passe bien.